Décryptage, Aurélien Devernois.
Bonsoir à toutes et à tous. Après la loi votée par le Parlement chinois prévoyant un possible déploiement des services de sécurité de Pékin à Hong Kong, c'est le Parlement local du territoire qui a adopté un texte criminalisant le manque de respect à l'hymne national. Les traditionnels rassemblements de commémoration des événements de Tiananmen ont eux été interdits sous couvert de mesures de lutte contre le Covid-19. Et même si des milliers de Hongkongais ont bravé cette interdiction et que le mouvement de contestation qui agite le territoire autonome depuis quasiment un an ne compte pas baisser les bras, la formule « un pays, deux systèmes » promue par Deng Xiaoping pourrait ne pas survivre au règne de Xi Jinping. Alors quelles en seraient les conséquences pour Hong Kong, mais aussi pour Taïwan et plus largement pour les relations internationales de la Chine? C'est la question que nous nous posons ce soir dans Décryptage. Et pour en parler avec nous, Chloé Froissart, maîtresse de conférences en sciences politiques au département chinois de l'université de Rennes 2, experte en mouvements sociaux en Chine. Bonsoir.
Bonsoir.
Également Jean-Yves Hurtubise, vous êtes maître de conférences à l'université catholique de Taipei à Taïwan, chercheur associé au Centre d'études français sur la Chine contemporaine et également co-rédacteur en chef de la revue Monde chinois Nouvelle-Asie. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Alors, je le disais en introduction, les choses se sont accélérées depuis une semaine. Jeudi 28 mai, vote au Parlement chinois d'une loi ouvrant la voie pour simplifier l'intervention des forces de sécurité chinoises à Hong Kong. Lundi, interdiction par la police hongkongaise des veillées de commémoration de la répression de Tiananmen, une première à Hong Kong. Et hier, cette loi adoptée par le Parlement local hongkongais qui criminalise toute atteinte à l'hymne national chinois. Alors, que s'est-il passé pour que Pékin semble durcir le ton à ce point? Pourquoi maintenant, Chloé Froissart, pour commencer?
Eh bien, je vois trois raisons majeures à cela. D'une part, parce que fondamentalement, la loi fondamentale de Hong Kong, à travers son article 43, prévoit que Hong Kong doit voter une loi sur la sécurité nationale. Or, cette loi n'a pas été votée depuis 1997 en raison de l'opposition féroce de l'opinion publique à Hong Kong et du camp pro-démocrate. Et donc ça, c'est un échec pour Pékin. Or, c'est la deuxième raison, les manifestations monstres qui ont eu lieu à partir de mars 2019 sur presque un an contre la loi d'extradition que le gouvernement hongkongais voulait imposer au Parlement déchaîner l'ire de Pékin, hein, la limite a été clairement franchie pour Pékin, et là, Pékin s'est trouvé démuni de moyens pour faire face à cette contestation, ne pouvant lancer directement les chars sur Hong Kong, comme il l'a fait sur la place Tiananmen le 4 juin 1989, en raison de l'opprobre international auquel il aurait été confronté. Donc, l'idée, c'est qu'il fallait que Pékin puisse avoir des moyens légaux pour agir sur le territoire de Hong Kong, ce qui justifie cette loi. Et troisième raison que je vois, c'est les élections législatives du 6 septembre, où la colère à Hong Kong étant telle face au clan pro-Pékin, que là, pour la première fois, le camp pro-démocrate pourrait être en mesure de gagner ces élections, ce d'autant plus qu'il y a eu un raz-de-marée aux élections de district en novembre dernier où les pro-démocrates ont gagné 17 districts sur 18. Donc, cette loi sur la sécurité nationale pourrait permettre à Pékin de disqualifier un certain nombre de candidats démocrates à cette élection et donc d'assurer la victoire du clan conservateur.
Jean-Yves Hurtubise, vous partagez cette analyse. Finalement, Pékin a décidé de couper court à une situation qui pourrait sembler lui échapper et ça, ce n'est pas acceptable pour les autorités chinoises.
Oui, tout à fait. Pékin est dans une stratégie en fait de grignoter petit à petit le théorique un pays des systèmes, enfin on va dire ce qui était normalement impliqué du point de vue légal jusqu'à une réunification complète. Et en fait aujourd'hui, pour comprendre véritablement les actions de Pékin, il faut comprendre que c'est pas simplement Pékin et Hong Kong, mais Pékin est de plus en plus Taïwan dans la ligne de mire de en fait toutes ces actions, de toutes ces interactions avec Hong Kong. Et ça, par exemple, on l'a vu encore assez récemment, parce que en fait aujourd'hui les deux on va dire Hong Kong et Taïwan, qui sont pour Pékin deux territoires mais qui sont concrètement très différent, hein, puisque Taïwan est un de facto indépendant. Donc en fait, en agissant sur Hong Kong, il y a aussi pour Pékin l'idée de dresser un avertissement à Taïwan qui, depuis la réélection en 2020 triomphale de Tsai Ing-wen, se pose de plus en plus, s'affirme. Elle est déjà de facto indépendante, mais s'affirme de plus en plus comme, on va dire, ne voulant pas, ne désirant pas le pays, le principe, un pays de système que Pékin impose à Hong Kong, puisque Taïwan s'aperçoit qu'un pays de système, en fait, ça veut dire surtout un pays, un système. Donc c'est ça le complément de ma réponse. Oui.
Chloé Froissart, justement, Pékin, vous en parliez, avait décidé d'écraser dans le sang la contestation de Tiananmen en 1989, la contestation étudiante. Et là, c'est vrai qu'on sent un changement de stratégie, c'est-à-dire qu'on est plus sur une guérilla juridique qui s'est mise en place, c'est-à-dire que Pékin a décidé de ne pas s'engager directement face aux contestataires de Hong Kong, mais plutôt d'essayer de finalement tordre le droit dans son intérêt pour parvenir à ses fins.
Absolument, absolument. Et d'ailleurs, il faut rappeler, si vous voulez, que cette formule « un pays de système » est déjà à la base ambivalente, parce qu'un pays de système, ce n'est pas système socialiste d'un côté et état de droit et encore moins démocratie libérale de l'autre, c'est système socialiste et système capitaliste. Donc, si vous voulez, Pékin, dit bah, « moi, je fais ce qu'il faut faire pour maintenir le développement capitaliste, c'est-à-dire j'applique la loi et l'ordre », et en ça, Trump et Pékin sont très proches l'un de l'autre, je fais en sorte que la loi et l'ordre soient respectés afin que le capitalisme puisse se développer à Hong Kong. Et si vous voulez, cette ambiguïté fondamentale qu'il y a dans beaucoup de textes de loi qui régissent la relation de Hong Kong à Pékin, fait qu'aujourd'hui, Pékin essaye de tordre le droit à son profit pour pouvoir avancer de manière pseudo-légale et légitime. Et c'est en particulier aussi le cas de la déclaration conjointe sino-japonaise de 1984, qui n'est pas un traité international déposé à l'ONU, mais un traité bilatéral, qui est aussi déposé à l'ONU, mais qui n'est pas garanti par l'ONU. Donc, si vous voulez, le statut ambivalent aussi de cette déclaration fait que Pékin a pu dire à plusieurs reprises que c'était un traité qui était dépassé, qui appartenait à l'histoire, etc. Et enfin, troisième ambivalence extrêmement importante qu'il faut souligner, c'est quand bien même la constitution, la Basic Law de Hong Kong, la loi fondamentale de Hong Kong stipule que les lois de la République populaire de Chine ne s'appliquent pas à Hong Kong, sauf les lois relatives aux affaires étrangères et à la défense, et que c'est à Hong Kong de légiférer sur son droit interne, eh bien, même cette clause peut être réinterprétée. C'est ce que font d'ailleurs certains juristes pro-Pékin qui disent mais non, la question de Hong Kong fait partie de la souveraineté nationale. La souveraineté nationale, c'est l'intégrité du territoire. Donc, Hong Kong a donc la Chine a le droit de légiférer sur cette question et cette loi sera donc intégrée dans l'annexe 3 de la loi fondamentale de Hong Kong au même titre que toutes les lois sur les affaires étrangères et la défense, et la chef de l'exécutif hongkongais n'aura plus qu'à la proclamer en passant au-dessus du Parlement hongkongais. Voilà. Alors, donc si vous voulez, on est dans une ambivalence que Pékin, je pense, a prévue dès le départ pour se ménager une porte de sortie et dont il joue actuellement.
Mais pourquoi la Chine agit maintenant alors qu'elle aurait pu faire cela dès 2003? Il y avait déjà eu une crise. En 2014 également, il y a eu de la contestation. Pourquoi aujourd'hui, précisément, la Chine dit à Hong Kong « Stop, je ne veux plus discuter sur les questions des libertés individuelles, je ne veux plus voir la moindre contestation dans les rues. » Pourquoi maintenant et pas il y a 5 ans ou il y a 17 ans ?
Bah, il y a plusieurs facteurs, à mon sens.
Alors Jean-Yves Vertebise, peut-être, oui.
Excusez-moi.
Oui, alors, donc, oui, Chloé va répondre aussi sans doute à cette question. Donc, on peut dire aussi que la venue au pouvoir de Xi Jinping depuis 2012 a traduit aussi un raidissement, une radicalisation du pouvoir chinois par rapport à Hong Kong en particulier, mais en fait par rapport, on le voit aujourd'hui, à l'ensemble des relations de la Chine avec ses voisins. Et donc aujourd'hui on parle d'une nouvelle, on va dire, agressive, d'une nouvelle assertiveness, comme dire, une nouvelle affirmativité, si on peut dire, et qui déteint sur l'ensemble de ces relations. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui fait que aujourd'hui le pouvoir chinois sans doute se dit qu'il est assez fort et que il a plus besoin, on va dire, de se réfugier vers un semblant de l'émergence pacifique et qui peut s'affirmer dans l'ensemble de ses volontés, et que en plus dans le contexte actuel, évidemment, là encore plus récent du Covid-19, lié en plus aux troubles aux États-Unis, Pékin s'est dit qu'elle a toutes les chances de continuer à aller en avant avec cette volonté d'affirmer sa place en Asie et dans le monde, et ça crée, on le sait, des tensions un peu partout. De ce point de vue, pour replacer Hong Kong dans un point de vue plus global, la Chine aujourd'hui avait des tensions en fait presque avec tous ses voisins, avec l'Inde, il y a des tensions frontalières dans la mer de Chine du Sud, avec les Philippines, l'Indonésie, etc.
Et donc finalement, Hong Kong, c'est un petit peu un symbole, c'est la Chine qui dit, comme diraient les Américains, not in my backyard, pas dans mon jardin, c'est le symbole de finalement la puissance retrouvée de la Chine et qui ne doit pas avoir la moindre contestation sur son territoire. Chloé Froissart.
Oui, c'est ça, pour compléter ce que disait Monsieur Hortovise à l'instant. Si vous voulez, pour la Chine, actuellement pour la Chine, pour Xi Jinping, le 21e siècle sera chinois ou ne sera pas. Et dans la mentalité chinoise actuelle, c'est de dire, ça y est, notre heure est arrivée, et en particulier de prendre notre revanche des guerres de l'opium du 19e siècle, à la suite desquelles la Chine a repris, ou en tout cas elle tentait d'émuler le système politique occidental, comme une manière instrumentale pour essayer de se renforcer, pour retourner les armes de l'Occident contre l'Occident, si vous voulez. Là, la Chine estime qu'elle a atteint un niveau de développement économique et d'influence au niveau international où elle est en droit de faire valoir son propre modèle, ses propres valeurs, d'autant que les États-Unis ont fait leur temps en quelque sorte. Donc, il s'agit pour Pékin de remplacer des valeurs dites universelles, mais qui sont pour Pékin en réalité uniquement américaines, en proposant son propre modèle, et y compris par la force. Et à ce niveau-là, Hong Kong constitue la première étape. Et je voudrais juste souligner une dernière chose concernant le droit. C'est quand même assez important de souligner que quand bien même le droit est assez ambigu, on ne peut pas non plus remettre en cause la question de statut international de la déclaration sino-britannique de 84. Or, c'est quand même un fait que là, il y a une entorse importante au droit international, qui cependant n'a pas été soulignée par tous les pays. Je pense que c'est vraiment important que de prendre cette mesure-là, parce que voilà, Hong Kong, c'est la première étape d'un droit international qui sera de plus en plus foulé aux pieds par la Chine. Et si on ne dit rien maintenant, qu'est-ce qui va arrêter la Chine plus tard?
Alors j'ai une question sur l'aspect économique, parce que Hong Kong, quand il y a eu la rétrocession donc de Hong Kong à la Chine, représentait vraiment une forte part de l'économie chinoise, je pense quasiment 25%. Aujourd'hui, c'est 2,7% du PIB chinois. Est-ce que aussi Hong Kong a moins de poids financier, et quelque part la Chine se dit c'est un sacrifice entre guillemets, qui peut être envisageable, sachant que les États-Unis, par exemple, ont menacé de remettre en cause le statut spécifique de Hong Kong sur l'aspect financier. Jean-Yves Hortobiz.
Oui, donc ce que vous dites est vrai, mais il n'y a pas simplement le poids en termes de PIB. Hein, donc c'est vrai qu'il est allé déclinant au fur et à mesure des années, mais il est allé déclinant aussi. C'est assez évident, mais il faut prendre compte du fait aussi de l'accélération du PIB chinois. C'est-à-dire c'est relativement aussi qu'il est allé déclinant. C'est par rapport au fait que d'un autre côté, aussi, le PIB de la Chine aussi a augmenté de façon exponentielle. Oui, donc c'est une relation Mais il y a aussi, de malgré tout, il ne sait pas que une histoire de PIB. Hein. Hong Kong, c'est aussi une bourse, c'est aussi une entrée pour un grand nombre d'entreprises étrangères à partir d'Hong Kong, ensuite vers la Chine. Et il y a, c'est aussi, je veux dire, une puissance, pas simplement donc au niveau du PIB, mais aussi cette puissance au niveau financier, au niveau symbolique. C'est ça, c'est aussi au niveau symbolique que la question se joue avec Hong Kong. Et manifestement, du point de vue symbolique, effectivement, il semblerait que la Chine soit prête à, on va dire, à passer par perte et fracas par rapport au symbole aussi que constitue Hong Kong du point de vue de l'image que les gens ont de la Chine. Il est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu l'impression que la Chine, finalement, se dit vu que personne nous aime, bon ben allons-y de toute manière. Voilà, on peut plus rattraper le coup. Et on voit aussi, on a beaucoup parlé de la diplomatie, Wolf Warrior diplomatie, des loups guerriers diplomates, avec ses tweets assassins de assez peu diplomates, de beaucoup de diplomates chinois, notamment par rapport à Hong Kong. Et là, justement, il y a eu un tweet récemment, donc il y a une porte-parole de Trump qui avait fait un tweet sur Hong Kong, et il y a une porte-parole d'une diplomate chinoise qui a répondu avec juste « I can't breathe » en référence aux manifestations de Minneapolis.
Et à la mort de George Floyd.
Voilà, c'est ça, la mort de George Floyd. Et donc, aujourd'hui, la Chine, à travers ses diplomates, est prête à faire de feu de tout bois pour, d'une certaine manière, justifier son discours et essayer de relativiser, en fait, l'ensemble de ses actions. Ah oui, mais vous voyez, donc, nous, on fait ça à Hong Kong, mais vous voyez qu'aux États-Unis, il y a aussi des émeutes qui sont aussi réprimées. Et évidemment aussi, tout ça, comme vous l'avez dit aussi au début, lié évidemment au fait que voilà, un jour après le 4 juin, qui aujourd'hui aussi est une date spéciale pour Hong Kong, puisque les commémorations de Tiananmen du 4 juin n'ont pas pu avoir lieu.
Se tenir comme habituellement.
Elles sont passées quand même, mais de façon, je veux dire, illégale.
Sur la question diplomatique, Chloé Froissart, les réactions internationales sont relativement prudentes. Hein. Certes, les États-Unis ont menacé de remettre en cause donc les accords spécifiques avec Hong Kong. La Grande-Bretagne propose d'accueillir potentiellement des Hongkongais qui décideraient de s'exiler, mais à part ça, on entend peu les pays occidentaux.
Alors, il y a eu quand même une déclaration conjointe États-Unis, Australie, Canada, Grande-Bretagne, où ils se disaient extrêmement préoccupés. Et bon, c'est important parce que c'est majoritairement vers ces pays-là que les jeunes Chinois vont étudier, que les entrepreneurs chinois investissent, etc., après avoir quelles seraient les actions concrètes. Par exemple, on parle d'un Magnitsky Act qui viserait, par exemple, à punir spécifiquement les cadres dirigeants qui seraient responsables d'une atteinte à la démocratie et aux droits de l'homme à Hong Kong. Bon, à voir. L'Europe a également publié une déclaration dans laquelle elle témoigne de sa profonde inquiétude, où elle souligne que la déclaration de 84 a été que la loi sur la sécurité est contraire à cette déclaration sino-britannique. Donc elle souligne qu'il y a une entorse importante au droit international. Après, le problème, c'est que les voix au sein de l'Europe sont quand même relativement discordantes.
Dissonantes.
Par exemple, entre la Hongrie qui est pro-chinois, ou même la France qui, à travers la voix de son conseiller diplomatique Emmanuel Bonn, a dit qu'elle respecterait la souveraineté de la Chine. Donc,
merci beaucoup, Chloé Froissart. C'est malheureusement déjà terminé. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à Jean-Yves Hurtubise. Je rappelle, Chloé Froissart, que vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'université de Rennes 2. Jean-Yves Hurtubise à Taipei.